Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel à laquelle vous êtes carrément abonné, qui vous permet eh bien, d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque sur des sujets d'église, sur des sujets de société. Ça va être le cas aujourd'hui. Hein.
Bonjour Christophe, bonjour. Je ne savais pas qu'on pouvait s'abonner à l'émission.
C'est un abonnement de cœur.
De cœur, c'est ça. Merci à ceux qui sont abonnés alors.
Donc, nous allons vraiment évoquer des sujets de société aujourd'hui, puisque je vais poser des questions que je n'ai pas conçues moi-même. Elles ont été conçues par Laura, qui était notre stagiaire jusqu'à la semaine dernière. C'est une jeune fille de 24 ans qui a donc des questions tout à fait particulières, les questions de sa génération. Et je vais être sa voix aujourd'hui pour vous les poser, Monseigneur Christori. Alors, la première question... Est-il possible d'être chrétien et homosexuel ?
D'abord, je remercie Laura, parce que je ne sais pas si elle va m'entendre, mais au moins, elle a fait un bon stage chez nous, à la radio. Et puis voilà, c'est intéressant d'avoir des questions qui viennent de cette génération-là. Est-il possible d'être chrétien et homosexuel ? Vous savez, on est chrétien par le baptême. Hein. On est chrétien le jour où, librement, on accueille le baptême, on accueille disciple de Jésus, d'être conduit par l'Évangile, qu'on accepte la foi que porte l'Église et qui nous conduit un jour à la vie éternelle. Donc, un chrétien, c'est ça. Donc, un chrétien, c'est pas d'abord quelqu'un qui fait des choses ou qui serait dans telle forme de vie, c'est d'abord quelqu'un qui accueille cette grâce. Donc, on peut être chrétien et plein de choses. Après ça, une personne homosexuelle est quelqu'un qui a fait peut-être le choix, ou en tout cas vit, pas toujours un choix, disent-ils, une relation avec quelqu'un du même sexe, ou qui est attiré par les personnes du même sexe. Ça n'empêche pas qu'il soit chrétien, ça n'empêche pas qu'il ait la foi, ça n'empêche pas qu'il cherche dans l'Évangile la source de la sagesse, ça n'empêche pas qu'il vienne prier, qu'il ait une relation même forte avec le Christ. Donc oui, on peut être chrétien et homosexuel.
Ouais. La question qui se pose, que pose Laura, la deuxième, cette orientation sexuelle, l'homosexualité, est-elle un obstacle dans la relation avec Dieu ? Je trouve que c'est une bonne question, finalement. Quel est le regard de Dieu, quoi, en fait, sur la sexualité humaine ?
La relation à Dieu, elle n'est pas d'abord, je pense, ce que j'en fais moi. Elle est que Dieu est entré en relation avec moi. Vous savez, le propre du christianisme, c'est de croire cette folie, hein, que Dieu, qui est tout-puissant, qui a créé ce monde, a voulu se faire proche des hommes, et pour cela, par sa parole, il vient en Marie, cette femme de Nazareth, simple jeune fille, vierge, très pure, et qui accueille cette vocation de porter en elle un enfant, qui est l'enfant de Dieu, de le mettre au monde, qui s'appelle Jésus. Donc ça, c'est le propre du christianisme, de croire que Dieu s'est fait proche de nous. Pourquoi ? Pour entrer en relation avec nous. Et comme Dieu n'est qu'amour, Dieu est amour, sa nature même, c'est d'être amour. On peut encore dire miséricorde, donc un amour qui se penche sur la misère des hommes pour les élever, pour les sauver. Donc la relation, elle est d'abord de Dieu. Et cette relation-là, rien ni personne ne peut la couper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer que Dieu ne veut plus, par lui-même, être en relation avec une personne donnée pour quoi que ce soit. Oui. Même celui qui tuerait père et mère, Dieu serait encore en relation avec cette personne. Après, la question, c'est est-ce que l'homme répond à cet appel de relation ? C'est-à-dire, est-ce que l'homme, dans sa liberté, ce que dira Jésus aux apôtres quand c'est un peu trop dur, que les gens s'en vont, qu'on ne comprend plus son discours, qu'on annonce qu'il va mourir ? Et Jésus va dire aux apôtres, est-ce que vous aussi, vous voulez partir, hein ? Alors, donc, il laisse les apôtres, qui sont pourtant ses proches amis, dans cette liberté de dire « Je reste ou je reste pas. » Et Pierre va prendre la voix pour tous les douze et les disciples autour en disant « Mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc Pierre accepte de rester avec Jésus. Est-ce que moi, j'accepte de rester avec Jésus ? Donc, certains le font malgré parfois des vies étonnamment contradictoires. Certains ont des vies de péché, même de fornication, ou certains se droguent, certains... ont peut-être une vie d'adultère, voilà. et pourtant cherche tout de même à garder le lien avec Dieu, malgré ce péché assez noir, au fond. D'autres, peut-être par orgueil, ou alors parce qu'ils se disent « je ne mérite pas d'être aimé par Dieu, vu ce que je vis, alors je me coupe de lui », un peu comme une auto-punition. C'est-à-dire que je m'en vais, je quitte la relation, je ne m'en occupe plus, je l'ignore, je n'en veux plus. Et là, oui, il y a un obstacle grave, parce que sans cette relation, de quoi je vis ? Quelle est ma sagesse ?
Finalement, le maxima culpa peut être un obstacle, si je vous comprends bien, en fait.
Oui, mais encore, l'Écriture dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que, quelle que soit ma vie, même dissolue, même droguée, même, je peux espérer en l'amour de Dieu. Donc, voilà, est-ce que ce retournement vers Dieu, je le vis ou pas, quoi ?
Une question sur l'homosexualité féminine. Qu'en est-il de l'homosexualité féminine qui n'est pas spécifiquement abordée dans la Bible ? Est-ce que l'Église fait une différence entre l'homosexualité masculine ou féminine ?
Non, je pense que ce n'est pas la question féminine ou masculine. Saint Paul, qui est donc le disciple de Jésus, a des paroles très fermes sur ceux qui choisissent d'avoir des relations physiques avec quelqu'un du même sexe, lui disant que ces relations, ces actes qu'il pose, sont réservés dans le couple à l'autre sexe. Donc, il condamne cela, féminin ou masculin. Après, encore une fois, on peut être amené à avoir cette vie-là. J'ai rencontré même en Eure-et-Loir des personnes qui vivent une relation homosexuelle, qui ont voulu me rencontrer, que j'ai rencontré. Je vois que ce choix est là, ou peut-être ce non-choix. En tout cas, ils sont ensemble aujourd'hui, c'est ça qu'ils vivent. Nous devons espérer en l'amour de Dieu, qui est premier, qui est le but de toute chose, qui nous conduit un jour à l'éternité. Et ça, plus que de réussir ma vie ici-bas, ce que prônent tant de livres, vous savez, réussir sa vie, ma réussite, mon corps, mon bien-être, la question, c'est ma vie éternelle. Oui. Et que chacun, au fond, dans la situation où il est, cherche à se purifier, cherche à se convertir en vue de la vie éternelle, c'est ça le chemin qu'il faut comprendre.
Pourquoi une femme ne peut pas être ordonnée prêtre ?
Alors, ça, c'est une autre question, bien sûr. En fait, Jésus, dans son choix qu'il fait, choisit des hommes qui vont l'entourer, donc 12 hommes qu'il prend de différentes conditions sociales. Matthieu était publicain, donc il s'occupait des impôts, plusieurs pêcheurs de poissons, d'autres avaient d'autres métiers. Il les rassemble et il en fait ses disciples. Eux-mêmes vont être envoyés comme apôtres après sa résurrection et son ascension, vont choisir d'autres hommes à qui ils vont transmettre ce don par l'imposition des mains d'être apôtres jusqu'aux évêques aujourd'hui. Et l'Église a toujours vu dans ce choix, depuis 2000 ans, un choix explicite de Jésus qu'il fait aussi parce que l'apôtre, l'évêque, rend présent dans les sacrements. Il agit, on dit, in persona Christi. Il rend présent Jésus lui-même dans les actes qu'il pose. Et Jésus est un homme sexué. Jésus n'est pas une femme. Jésus était entouré de femmes à qui on dit d'ailleurs qu'il donnait une place assez conséquente d'amitié, de confiance, bien plus que l'époque le permettait. Donc, s'il choisit des hommes, ce n'est pas pour rien. Et dans cette tradition qui a 2000 ans, l'Église voit un choix de Dieu. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'Église catholique considère que les évêques et les prêtres qui sont ceux qui assistent les évêques sont des hommes. La femme a une autre vocation, pas moindre, mais différente.
Une question qui est vraiment conséquente, enfin qui est subséquente, c'est la situation peut-elle changer dans le futur ? Mais je crois que vous venez d'y répondre, finalement, la situation ne peut pas changer dans le futur.
C'est-à-dire qu'on compare souvent avec, par exemple, les protestants qui ont des pasteurs femmes. Mais le pasteur dans l'Église protestante est une personne, homme ou femme, qui a bien sûr un amour de Dieu, qui connaît bien la Bible et qui est plus dans la conduite d'une communauté. Donc il est plus quelqu'un qui apporte un savoir faire pour mettre ensemble des gens, les aider à se tourner vers Dieu, à animer. Il n'est pas prêtre. Il n'a pas le don, ce qu'on appelle la succession apostolique, autrement dit la succession des apôtres par chaque évêque qui transmet ce don, a été interrompue par les protestants. Ou bien on va comparer avec telle femme rabbin. Mais ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas la même vocation. Et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a affirmé de manière définitive que le prêtre est un homme.
Comment un prêtre peut-il évoluer dans la hiérarchie épiscopale ?
Oh ben ça, c'est...
c'est une question. Enfin voilà, c'est le regard d'une jeune femme qui voit que c'est aussi un métier finalement.
Oui, c'est un métier au sens que c'est un travail. Bien, je dis souvent, si c'était un métier, je serais mieux payé, mais... c'est pas compliqué. Il y a des personnes qui ont des compétences et l'Église ne repousse pas les compétences des gens. Donc moi, je vois bien qu'il y a des prêtres qui sont très talentueux, très compétents, qui ont fait des études, qui savent animer, qui savent parler, qui savent avoir qui ont un peu une capacité large. Ils vont être choisis pour être évêques. Moi, j'étais un choix. Bon, on m'a pris parce que j'étais un curé de paroisse conséquente, donc on m'a pensé que c'était bien que je sois évêque. Maintenant, on peut évoluer en fonction des besoins de l'Église, parce que certains, effectivement, se démarquent par des écrits, par des prises de parole, etc. Mais je pense que il n'y a pas de carrière pour les évêques. Enfin, certains pensent qu'être cardinal, ça serait le sommet de l'épiscopat, mais être cardinal, c'est la couleur rouge. Et la couleur rouge, c'est celle du sang. Si un cardinal est habillé en rouge, enfin, pour qu'il soit visible, c'est parce que ça lui rappelle tout le temps que sa vie doit être un martyr, qu'il est prêt à offrir sa vie pour le Christ et pour ses frères. Je ne sais pas si les évêques aspirent à être cardinaux, en tout cas, moi, j'y aspire pas du tout, et je n'ai aucune prétention là-dessus. Je suis sûr que je ne le serai jamais, quoi, parce que je n'ai pas la compétence d'être dans ces organisations, dans ces animations de projets à l'échelle planétaire, quoi, ou en tout cas d'un pays même. Voilà, c'est très bien que d'autres le soient, et pas moi.
Laura voulait savoir, pour terminer, mais vraiment, ça va être un peu court, de quelle manière un évêque est-il ordonné, est-ce qu'il reçoit un sacrement spécial, demande-t-elle.
Oui, en fait, il y a le sacrement de l'ordre, qui est un des sept sacrements de l'Église, donc par lesquels Jésus lui-même donne son pouvoir. Hein, quand le sacrement du pardon, on donne le pouvoir de confesser. Le sacrement de l'Eucharistie, on rend présent le Christ dans le pain et le vin consacrés. Eh bien, le sacrement de l'ordre donne effectivement une nature nouvelle à l'homme qui reçoit ce sacrement. Il y a trois degrés. On peut être évêque, prêtre ou diacre. L'évêque est celui qui est directement la figure de l'apôtre. Il y a un rituel par lequel on reçoit l'imposition des mains, le geste même qu'a fait Jésus et qui transmet spirituellement ce pouvoir d'animer, de consacrer, d'être l'apôtre. Il y a une onction d'huile qui est faite, toujours à la fois le signe de la force de Dieu qui passe dans l'être de l'évêque. On le couvre de la parole de Dieu avec un grand lectionnaire pour que son cœur, sa maison soit la parole en quelque sorte et qu'il la proclame. Donc il y a tout un rituel assez beau par lequel on devient effectivement évêque.
Monseigneur Christouri, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions, à ce feu de questions.
Merci à Laurent. Et d'ailleurs, si des jeunes ou des moins jeunes nous écoutent, ils peuvent envoyer des questions.
Il suffit tout simplement de m'écrire à christophe.jubien@radiorantiel.fr. N'hésitez surtout pas. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, Monseigneur Christouri, pour un nouveau Libre Propos.
Volontiers.
Et merci à Simon en régie technique.